Les livres prophétiques de la Bible ont provoqué la curiosité de beaucoup de chrétiens. Et en particulier, les chiffres qui se trouvent dans les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Ces chiffres, qui paraissent mystérieux, ont amené beaucoup de gens à concevoir toutes sortes de scénarios et d'idées particulières. Ces chiffres ont amené certaines personnes à imaginer toutes sortes de choses parfois farfelu concernant les textes prophétiques, et en tout cas déclencher un intérêt, une recherche pour la compréhension des livres prophétiques. Les chiffres en particulier ont suscité l'intérêt pour essayer de comprendre, de savoir ce qu'il y avait derrière. Parfois on y a mis beaucoup de mystère, on en a parlé parfois d'une façon très fantaisiste, mais je crois qu'il est important de comprendre les prophéties et les chiffres qui sont dans les prophéties, de manière à ce qu'ils correspondent à ce que la Bible enseigne. Effectivement, on a des chiffres curieux, on a des chiffres comme 1260, 1390, 490, 70 semaines, 666, 144 000, toutes sortes de chiffres qui ont déclenché la curiosité et parfois les fantasmes de beaucoup de gens. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous un passage du livre de l'Apocalypse où l'un de ces chiffres se trouve inscrit. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, se trouve ce texte où nous avons les fameux trois messages des anges qui circulent à travers le monde à la fin des temps pour annoncer une dernière fois l'Évangile éternel à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et je crois que nous vivons dans ce temps de la proclamation de la fin, de la proclamation des trois anges d'Apocalypse chapitre 14. Mais dans les versets qui précèdent, dans le chapitre 14, au verset 1, il est dit ceci. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Un petit peu plus loin, au verset 3, il est dit « Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » 144 000, qui sont ces gens ? Le texte nous donne un certain nombre de caractéristiques pour savoir de qui il s'agit. Le texte nous dit qu'ils portent le nom du Père et le nom de Jésus sur leur front. Ce sont des gens qui reproduisent le caractère de Dieu. Ils sont présentés dans ce chapitre comme les prémices pour Dieu, les premiers fruits de ceux qui sont sauvés au moment où Jésus revient. Plusieurs indications nous sont données, nous faisant comprendre que ces gens ont été scellés du sceau de Dieu. Un groupe vraiment particulier de personnes qui ont des caractéristiques spirituelles particulières. Ce n'est pas le seul endroit dans l'Apocalypse où il est question des 144 000. Quelques chapitres avant, au chapitre 7, il est aussi question des 144 000 et d'autres indications nous sont données à leur sujet. Apocalypse chapitre 7, au verset 4, il est dit ceci. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, et ainsi de suite au travers des 12 tribus dans les quelques versets qui suivent. 12 000, comment arrive-t-on à ces 144 000 personnes? 12 000 de chaque tribu d'Israël. Maintenant, certaines personnes ont imaginé que ce nombre de gens correspondait à un chiffre littéral de personnes, 144 000 individus. D'autres ont pensé qu'il s'agissait d'un chiffre symbolique. Alors essayons. Si ce chiffre est littéral, il faut que nous soyons conséquents avec le texte. Si ce chiffre est littéral, alors à ce moment-là, on apprend qu'au moment où Jésus revient, les prémices de ceux qui sont sauvés sont tous des Juifs. C'est ce que le texte nous dit au chapitre 7. Ils sont sortis des tribus d'Israël. Ce sont seulement des hommes. Et en plus, ce sont des hommes vierges, nous dit le chapitre 14. Ça paraît absolument incompréhensible d'avoir seulement, près au retour de Jésus, 144 000 juifs vierges à ce moment-là. Il est évident que ce chiffre a une connotation symbolique qui nous parle des caractéristiques mêmes de ces gens qui sont représentés par ce chiffre des 144 000. Dans la Bible, le chiffre 12 est attaché au peuple de Dieu. On parle des 12 patriarches, on parle des 12 apôtres. On va retrouver d'ailleurs ce chiffre 12 dans le sanctuaire aussi. 12 fois 12, 144 fois 1000, 144 000. Maintenant, en français, lorsque nous employons le superlatif, nous disons la plus grande maison, la plus grande ville, la plus belle église. En hébreu, il y a une autre forme pour exprimer le superlatif. On va employer le complément de nom. On fait un peu de grammaire ce matin, voulez-vous ? On va dire, pour employer le superlatif, on va dire la maison des maisons, la ville des villes. Et si l'on veut parler du plus grand roi, on va parler du roi des rois et du seigneur des seigneurs. On comprend à ce moment-là le sens de notre texte. 12 fois 12, c'est le peuple de Dieu par excellence. C'est le peuple qui est précisément, comme dit le texte, les prémices, les premiers fruits marqués du sceau de Dieu. Le peuple des peuples, dans sa dimension planétaire, multipliée par 1000, à travers le monde entier. Les 144 000 représentent la crème de la crème, le peuple des peuples de Dieu, ceux qui sont prêts à recevoir Jésus lorsqu'il apparaît sur les nuées des cieux, les prémices, les premiers fruits. Mais dans le texte que nous avons sous les yeux, dans Apocalypse chapitre 7, se trouve là une liste des tribus d'Israël en nous disant que 12 000 personnes sont issues de chaque tribu pour constituer ce peuple. Mais la liste qui nous est donnée ici est une liste tout à fait étrange. La liste des 12 tribus qui nous est donnée dans Apocalypse chapitre 7 ne se retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Elle est tout à fait originale et suscite notre curiosité. Pourquoi donc cette liste qui est ici, la liste des tribus d'Israël, est-elle unique dans son genre ? Elle ne correspond pas aux listes que l'on a dans l'Ancien Testament. Par exemple, il manque la tribu de Dan. Elle n'est pas dans la liste d'Apocalypse, chapitre 7. Et puis, il n'y a véritablement jamais eu de tribu de Joseph. Il y a eu à la place de la tribu de Joseph, deux demi-tribus issues de ses fils, Manassé et Éphraïm. On n'a jamais parlé de la tribu de Joseph dans le peuple d'Israël en tant que tel. Mais dans la liste que nous avons ici, il y a la tribu de Joseph, mais il y a aussi la tribu de Manassé, son fils. Mais par contre, nous n'avons pas la tribu d'Éphraïm. C'est une liste tout à fait particulière, une liste unique en son genre, qui doit attirer notre attention parce que nous avons ici un message symbolique de la part du Seigneur, un message spirituel pour nous faire comprendre comment sont ceux qui, à la fin des temps, sont prêts à recevoir le Seigneur Jésus lorsqu'il vient sur les nuées des cieux. Pourquoi donc dans cette liste, Dan n'est pas présent ? Pourquoi donc dans cette liste, Éphraïm est absent ? Je ne voudrais pas passer trop de temps avec la tribu de Dan parce que le texte biblique, en fait, nous dit assez clairement pourquoi Dan ne peut pas être dans cette liste. J'aimerais rapidement avec vous regarder deux ou trois passages bibliques qui nous donnent l'idée qui est associée à la tribu de Dan dans l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 49, ce qu'il est dit de la tribu de Dan dans ce fameux chapitre où se trouvent les bénédictions que Jacob accorde à ses enfants. Dans le livre de la Genèse au chapitre 49, au verset 16, il est question justement de cette bénédiction, entre guillemets, que Jacob va donner à son fils Dan. Genèse, chapitre 49, au verset 16, il est écrit ceci. « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Dan, un serpent. Et l'on comprend dans les Écritures à quoi le serpent est associé. C'est dès les pages de la Genèse, les premières pages de la Genèse, une image du serpent ancien, du diable, Satan, l'ennemi. Et curieusement, c'est l'image qui est associée à Adam. Il est une occasion de chute, nous dit le texte. C'est lui qui va mordre le talon du cheval pour faire tomber le cavalier. Et effectivement, dès le départ, Dan a été pris par l'idolâtrie et s'y est adonné pendant toute l'histoire d'Israël. Il a véritablement été une occasion de chute pour le peuple. Regardez par exemple dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 10, ce qui nous est dit au verset 28 et 29. Deuxième livre des Rois, au chapitre 10, nous sommes là bien plus loin dans l'histoire, mais en fait, le passé se reproduit. Deuxième livre des Rois, chapitre 10, verset 28. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. On a épuré le peuple. On a éliminé les statues, on a éliminé les idoles, mais pas ce qui se trouve à Dan. Un autre passage dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, nous rapporte encore ce qu'il en est de Dan. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, dans un diagnostic que Dieu fait de son peuple, il dit au verset 14, « Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, « Vive ton Dieu, Dan !» Vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. » On comprend dans ce passage que cette tribu de Dan en particulier, qui s'était adonnée à l'idolâtrie tout au long de son histoire, a été interpellée par Dieu, mais ils sont tombés et leur situation est sans remède. Ils ne se relèveront plus. Jacob, dans sa bénédiction sur ses enfants, en parlant de Dan, implorait le secours de l'Éternel pour son fils, s'il était possible. Et nous découvrons dans le reste des Écritures que cette tribu ne se relève pas de son idolâtrie. Ils tomberont et ne se relèveront plus. On comprend alors que Dan ne soit pas dans la liste de l'Apocalypse. On comprend que cette tribu ne peut pas représenter ceux qui, à la fin, sont fidèles et attendent le retour de Jésus. Parce que Dan, au cours de son histoire, a véritablement été représentatif de celui qui est une pierre d'achoppement pour les autres, le serpent dans le chemin. Et c'est dire à quel point cette tribu a été associée au rôle d'un ennemi subtil qui fait tomber les serviteurs de Dieu. Mais qu'en est-il d'Éphraïm maintenant? Pourquoi donc Éphraïm n'est-il pas dans la liste? Éphraïm, d'ailleurs, a souvent été employé dans les textes bibliques comme représentatif du peuple dans son entier. On prend le nom d'une tribu et cette tribu va représenter la totalité du peuple ou la totalité du peuple d'Israël, du royaume du Nord. Éphraïm va parfois être tout simplement synonyme d'Israël dans son entier. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc Éphraïm, qui a reçu la bénédiction paternelle, pourquoi Éphraïm n'est-il pas dans la liste de l'Apocalypse? Vous vous en souvenez, Éphraïm n'était pas l'aîné. C'est Manassé qui était l'aîné. Et vous vous souvenez comment, au moment de recevoir la bénédiction du patriarche, Jacob a croisé ses mains pour donner au cadet la bénédiction qu'il devait donner à l'aîné. Il a reçu cette bénédiction de l'aîné. Pourquoi n'est-il donc pas dans la liste d'Apocalypse chapitre 7? Encore une fois, la Bible va nous donner la réponse. Je vous invite à regarder dans le livre du prophète Osée ce qui nous est dit à son sujet. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11, se trouve un passage qui exprime précisément ce qu'il en est d'Éphraïm en tant que représentatif aussi du peuple dans son entier. Osée, chapitre 11. Dès le premier verset, il est dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié aux Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Dieu fait ici le diagnostic de son peuple et dit, voilà, je les ai aimés, je les ai délivrés d'Égypte, je leur ai donné de la nourriture, j'ai tout fait pour eux, je les ai guéris. Et ils n'ont même pas vu que je les guérissais, parce qu'ils ont été sacrifiés aux autres dieux. Les faux dieux, bien entendu. Et il parle là d'Éphraïm, comme d'un enfant qu'un père guide dans ses pas, qu'il soutient pour qu'il marche. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Voilà la situation d'un peuple ingrat, d'un enfant qui ne se rend même pas compte de ce que son père fait pour lui. Plus loin dans le texte, nous découvrons comment vit ce peuple. Chapitre 12, dès le premier verset, il est dit « Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et on porte de l'huile en Égypte. Violence, tromperie, mensonge. Voilà ce que fait Éphraïm, voilà ce que fait le peuple. Ce n'est pas une situation que l'on attend de la part du peuple de Dieu, qui a reçu les oracles de Dieu depuis le début, qui a reçu les prophètes. On n'attend pas dans le peuple d'avoir mensonge, violence, tromperie. Et entendez-le bien, il ne s'agit pas ici des autres, des païens, de n'importe qui, il s'agit du peuple de Dieu. Un peu plus loin dans le texte, nous lisons ceci au verset 8. Osée chapitre 12, verset 8, continue en disant « Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » Vous entendez dans ce texte une arrogance que nous connaissons par un passage du Nouveau Testament. Éphraïm est dans le péché, dans la tromperie, dans la violence, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres. Et il dit, mais en fait, c'est grâce à moi que je suis dans l'abondance. C'est grâce à ce que j'ai fait. Et en plus de ça, il n'y a chez moi aucun mal. Tout va bien. Est-ce que vous entendez un passage de l'Apocalypse que vous connaissez bien, qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3? Regardons-le ensemble. Apocalypse chapitre 3, c'est une lettre que Jésus envoie à une de ses églises, l'église de Laodicée, qui se trouve être précisément l'église de la fin des temps, la dernière église. Et dans cette lettre que Jésus envoie à l'Odyssée, il dit ceci au verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » L'église de Laodicée se satisfait de sa situation. Je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi et je n'ai pas de problème. Et Dieu lui dit, tu ne sais même pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu crois tout le contraire. Curieusement, on entend dans cette arrogance de Laodicée la même inconscience que l'on avait dans le discours d'Éphraïm rapporté par le prophète Osée. On a la même arrogance qu'on avait dans le discours de Nebuchadnezzar, qui disait « Regardez, Babylone, c'est l'œuvre que j'ai accomplie, c'est par moi que ça a été fait, mes œuvres. » On comprend ici que Éphraïm est associé dans l'Ancien Testament au salut par les œuvres et à l'inconscience de son besoin d'un sauveur. Inconscience d'être dans le péché, inconscience d'avoir besoin d'être guéri de son péché. Mais curieusement, c'est exactement la situation de l'église de Laodicée. Dramatique parce que cette église est supposée être celle qui reçoit Jésus sur les nuées des cieux lorsqu'il revient. Ainsi, cette église de Laodicée reproduit le même discours qu'Éphraïm. C'est l'église tiède. C'est l'église cool après tout. L'église cool, ni froid ni bouillant, à qui Jésus promet de la vomir si elle ne fait pas quelque chose. C'est l'église qui n'a besoin de rien. C'est l'église qui n'est pas sauvable, si vous permettez cette expression, à cause de la situation dans laquelle elle se trouve. À cause de son inconscience sur son propre état, à cause de sa prétention de ce qu'elle est et qu'elle n'est pas. Ainsi, je comprends pourquoi Éphraïm ne peut pas être inscrit dans cette liste de l'Apocalypse où se trouvent les tribus d'Israël, représentant ceux qui attendent le retour de Jésus. Parce qu'en réalité, nul ne peut être sauvé s'il n'a pas véritablement compris comment nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Éphraïm, dans l'Ancien Testament d'ailleurs, nous rappelle ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Éphraïm, dans l'Ancien Testament, va apporter des indications qui nous réfèrent à l'Apocalypse dans les prophéties que nous connaissons. Regardez par exemple encore une fois dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4. Au verset 17, il est dit ceci. « Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. » À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Avez-vous remarqué, Éphraïm est abandonné. Abandonné parce qu'il s'est, lui, abandonné aux idoles. Et en plus, à l'ivrognerie. Il boit et se livre à la prostitution. Ce sont là deux symboles qui sont utilisés dans l'Ancien Testament et dans la parole de Dieu, pour nous parler aussi de l'infidélité par rapport à Dieu. Mais regardez un autre passage un petit peu plus loin, dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, au verset 1er, il est dit « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. » Éphraïm est associé avec ceux qui boivent, avec ceux qui s'enivrent, avec ceux qui vont à la prostitution. Et tout d'un coup vient à notre esprit ces passages de l'Apocalypse qui reprend les mêmes termes. Vous vous en souvenez dans Apocalypse au chapitre 17. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 17 où nous retrouvons le même langage. Apocalypse chapitre 17 au verset 3, Jean rapporte ce qu'il voit dans sa vision et il dit « Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous retrouvons dans l'Apocalypse cette notion de boire et cette notion de prostitution associée à ce symbole de la femme infidèle, de l'Église, infidèle à la fin des temps, et qui veut faire boire aussi tous les autres dans le monde pour les attirer dans l'infidélité par rapport à Dieu. Éphraïm faisait exactement cela. Éphraïm n'est pas dans la liste de l'Apocalypse parce qu'Éphraïm n'a pas compris le salut par la foi. Éphraïm est pris par le système du salut par les œuvres, de ce qu'ils sont capables de faire, de leur propre réalisation, inconscient du besoin d'un sauveur. C'est la raison pour laquelle Éphraïm n'a pas son nom parmi les 144 000. Maintenant, je comprends que si pour moi ce que Jésus a fait n'est pas clair, je peux difficilement me mettre au bénéfice du salut qu'il m'offre. Je comprends que si je suis inconscient sur ma situation, que je suis grisé par mes réalisations ou par ce que le monde m'offre, je ne pourrai pas comprendre la profondeur du plan du salut et sa signification pour ma vie. Et je comprends par conséquent qu'Éphraïm ne peut pas être dans la liste de ceux qui représentent les prémices de ceux qui sont sauvés lorsque Jésus revient. Mais je me pose la question de savoir si aujourd'hui je ne reproduis pas aussi, moi, les caractéristiques d'Éphraïm. Il n'est pas nécessaire, véritablement, d'appartenir à l'institution qui est représentée ici par la femme infidèle. Nous pouvons tous développer dans notre propre vie cette mentalité, cet état d'esprit de Babylone ou d'Éphraïm ou même de Laodicée, où nous retrouvons les mêmes caractéristiques. Je me rends compte que l'Église d'aujourd'hui véritablement correspond à ce que Laodicée est présentée dans l'Apocalypse. Et je me pose la question pour moi-même. J'aimerais vous lire un paragraphe écrit au siècle passé. Et je suis interpellé par ce qui est écrit ici dans le livre « Service chrétien » à la page 41. L'auteur dit ceci. « C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église en disant qu'il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont sur les registres de l'Église et qui soit prête à achever son histoire terrestre. Elles sont véritablement sans Dieu, sans espoir dans le monde, comme le reste des pécheurs. Elles professent de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-service est en fait un reniement constant de Christ, plutôt qu'une confession. Beaucoup ont introduit dans l'Église leur esprit insoumis et non transformé, et leur goût spirituel est perverti par leur corruption morale. Elles agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur et dans leur objectif. Pas une personne sur 20 n'a véritablement dans l'Église compris le plan du salut tel qu'il nous est révélé dans les Écritures en Jésus-Christ. C'est un état des lieux